Alors, il y a des prédicateurs qui commencent leur message en demandant Amen. Alors, seulement Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Alors, il faut savoir ce qui a été dit avant pour dire Amen. Mais par la foi, on peut dire Amen, que le Seigneur va nous apporter un message de sa vérité, de sa grâce, de sa bonté, de sa fidélité, pour nous conduire justement dans son céleste séjour, en nous guidant, en nous permettant de le suivre. Donc, sur cette pensée et cette carte que je vous ai donc transmise, il y a l'injonction à suivre le Seigneur et à s'assembler en son nom. Suivons-le et assemblons-nous en son nom. On pourra décliner plusieurs aspects de ce message, et en particulier retourner dans le prophète Joël. Mais ici, je serai plus simple en restant sur le fait de suivre Jésus. Suivre avant de s'assembler. Parce que Jésus est en mouvement. Figurez-vous que lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus était toujours, à partir du moment où il a commencé son ministère, il était toujours en mouvement. C'est ce que rappelle l'apôtre Pierre dans son exhortation aux païens qui étaient saisis par la grâce de Dieu. Chapitre 10, verset 38 des Actes. 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oint du Saint-Esprit et de force, Jésus allait de lieu en lieu. Alors, bien entendu, si on voulait être avec lui, il fallait le suivre. Jésus ne s'arrêtait pas de bouger et d'aller de lieu en lieu, à la rencontre des perdus, à la rencontre des pauvres, à la rencontre des malades. C'est le grand ministère de la grâce de Dieu. Nous avons un Seigneur qui est venu et qui est allé à la rencontre de chacun des perdus. Alors, je vois deux raisons pour suivre Jésus dans ce qui apparaît dans le texte lui-même, bien sûr. La première raison de suivre Jésus, c'est sur sa propre injonction pour être avec lui dans son ministère. C'est la première mention, en fait, de suivre Jésus. C'est Jésus qui adresse cette parole à ses disciples, et je vais vous lire dans Matthieu, donc au chapitre 4, à partir du verset 18, je vais aller jusqu'au verset 25. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : Suivez-moi. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Les disciples ont suivi Jésus sur son injonction, et ensuite la foule a suivi Jésus par attrait pour bénéficier de son ministère. Il les guérissait tous. Alors oui, effectivement, au début, Jésus a besoin d'une équipe qu'il forme, qu'il va former au ministère. « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et pour cela, donc, il appelle. Si quelqu'un sert Christ par le ministère, c'est un appel de celui-ci. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et établi, afin que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure. » Jésus appelle, il équipe et il produit le résultat, le fruit du témoignage. Ce ministère de Jésus et de ceux qui le suivent, finalement, consiste à proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres, selon la parole qui avait été annoncée par le prophète Ésaïe et que Jésus a reprise au début de son ministère. Il est donc légitime que les pauvres de toutes sortes viennent à lui pour être secourus et guéris. Ce ministère va s'amplifiant par Jésus et ensuite par ses apôtres, ses disciples. Le monde, le peuple, les foules ont des besoins. Et il est bien légitime de venir à celui qui peut y répondre. C'est le mouvement naturel. Alors ceux qui sont appelés et ceux qui bénéficient du ministère sont de fait assemblés auprès de Jésus. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui est la source, c'est lui qui fait tout de la part de Dieu. Et ils ont tous un besoin essentiel, le même besoin dont ils ne se rendaient peut-être pas compte au départ, parce qu'ils venaient avec leurs besoins naturels, leurs besoins humains, ils avaient besoin d'être enseignés. Jésus enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume en même temps qu'il guérissait. Et nous voyons donc au début du chapitre 5 comment le Seigneur va enseigner ses disciples et la foule. Puisque 5 verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Et ça commence par les béatitudes et ça poursuit avec toute l'analyse de la loi selon l'Esprit de Dieu. Ça s'appelle le sermon sur la montagne et ça mène jusqu'à la fin du chapitre 7. Ça, c'est la loi fondamentale de Jésus, les lois de l'Esprit. Et ça se termine, verset 28 du chapitre 7. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Oui, il y avait des scribes qui déjà enseignaient le peuple, mais avec toutes sortes de subtilités, de nuances, etc., que le peuple finissait par ne plus rien comprendre. Et Jésus enseignait avec autorité. Mais nous voyons que, au début, il est question de la foule, mais il est plutôt question des disciples qui s'approchent de Jésus pour être enseignés, Mais à la fin, c'est la foule qui est frappée de sa doctrine. Donc tous ont besoin d'être enseignés par le Maître, par le Seigneur, par celui qui est la vérité. Tous. Et il faut d'abord que ceux qui doivent enseigner le peuple, qui doivent exercer le ministère, reçoivent et vivent l'enseignement de Jésus, pour que la foule ne soit pas seulement frappée de la doctrine de Jésus, mais la reçoive également, la vive, la mettre en pratique. Oui, on peut dire vraiment cette prière, « Oh, que la foule encore aujourd'hui puisse voir des disciples, recevoir et vivre l'enseignement de Christ, et ainsi le recevoir pour elle-même et voir la vie changer. » Parce qu'il faut que la vie change. Et comment changera-t-elle si le message n'est pas donné, mais aussi incarné? Le Seigneur a incarné le message. Et ceux qui sont appelés à exercer le ministère doivent aussi, bien entendu, l'incarner. Alors des foules viendront encore pour recevoir, entendre, être bénis, guéris, sauvés, et voir leur vie changer. Le ministère consiste à recevoir l'enseignement de Jésus et à faire ce qu'il faisait, puisqu'à un moment donné, lorsque les disciples voient la foule en difficulté après avoir écouté Jésus pendant un long moment, au chapitre 14, versets 15 et 16, bon voilà, je prends à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart parce qu'il vient d'apprendre que Jean le Baptiste a été décapité. Alors pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Et Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Voilà que Jésus engage ses disciples à être ceux qui vont fournir la nourriture à ce peuple. Et donc à faire ce que Jésus est venu faire dans ce monde. Nourrir aussi, donner, procurer selon le besoin des personnes, de tous ceux qui s'assemblent en fait pour écouter, pour entendre, pour recevoir de Jésus. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Les disciples ont suivi Jésus, la foule a suivi Jésus, et puis ça donne un ministère. Et lorsque le Seigneur Jésus est remonté au ciel, eh bien le ministère s'est poursuivi par ceux qu'il avait enseignés et qu'il avait envoyés dans le monde pour continuer d'enseigner et de bénir le peuple par la grâce, la force, la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Alors, quelles conditions pour exercer le ministère? Quelles conditions pour suivre Jésus en tant que foule? Eh bien, la condition du ministère avec Jésus est remplie spontanément par les premiers appelés, laisser son contexte d'activité et même laisser des personnes. Ils laissèrent leur filet. Et ils laissèrent la barque et leur père. Il y a la même scène au chapitre 9, au verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Dans les trois cas, le double premier cas et celui-ci, il n'y a aucune question, aucune réserve, aucune objection, aucun raisonnement. Simplement, Jésus dit « Suivez-moi, suis-moi », il se leva et le suivit. Spontanément, les premiers appelés ont rempli les conditions du ministère. Se lever, laisser et aller avec Jésus. Plus de gagne-pain, mais servir celui qui donne le pain à tous. Le pain de tous les jours, et puis le pain de vie, bien sûr. Alors malheureusement, certains sont retenus par toutes sortes de considérations. Au chapitre 8, versets 18 à 22, nous avons « Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Dans ces échanges, il y a les problématiques qui sont soulevées, pour lesquelles on suppose que les velléités d'engagement de l'un et de l'autre n'ont finalement pas abouti. Mais qui sait ? Peut-être que celui à qui le Seigneur a dit « Suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts », peut-être qu'il a laissé les morts ensevelir leurs morts et il a suivi Jésus. On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, qu'il y en a un autre qui a clairement renoncé au chapitre 19, versets 21 et 22. Jésus lui dit, ce jeune homme qui avait observé toute la loi, mais à qui Jésus dit maintenant, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Celui-là, il a renoncé, peut-être pour un temps. Mais Dieu peut être plus fort que la sécurité des richesses, puisque à Dieu, tout est possible. N'empêche qu'il y a ce nécessaire abandon des richesses pour suivre Jésus. Donc la condition du ministère est absolue, exigeante. Il ne faut regarder à rien d'autre qu'à ce maître, qu'à ce Seigneur qui se présente à nous. Et puis il y a la condition pour bénéficier du ministère, celle de la foule. Eh bien, elle est également remplie cette condition spontanément par la foule. Parce que cette condition, c'est la foi, c'est la simplicité dans l'acceptation du ministère de Christ. C'est ainsi que l'on bénéficie de la grâce de Dieu. C'est ainsi que l'on bénéficie de son amour, de sa puissance, de son salut, lorsque l'on croit tout simplement. C'est ce que faisait la foule. Elle voyait Jésus enseigner, guérir les malades, chasser les démons. Et bien, elle le suivait. Elle y croyait. Mais c'est lorsque interviennent des raisonnements, des calculs, que là, eh bien, beaucoup se détournent. L'esprit d'analyse vient malheureusement contrarier l'acceptation simple du message et de l'œuvre de Christ. Comme à Nazareth, si nous le prenons dans Marc, au chapitre 6, versets 1 à 6. Là, les gens, ils ont commencé à raisonner. Jésus partit de là, se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas aussi parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, sa maison, et il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Voyez, parce qu'il connaissait Jésus sous un certain jour, avec une certaine idée qu'il se faisait de ce qu'était un prophète, ou de ce qu'il ne devrait pas être, etc. Ils ont commencé à analyser Jésus en fonction de leurs critères. Eh bien, ils n'ont pas bénéficié de son ministère. Et combien nous devons prêcher nous-mêmes un évangile simple et demander de considérer seulement que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Alors on peut aussi, ça a été le cas, suivre Jésus après avoir bénéficié de son ministère. Comme au chapitre 20, verset 29 à 34, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Guéri par le maître, ils le suivent. Or, au verset 17, « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, la scène se passe aux portes de Jérusalem, pas loin, Jéricho, à la sortie de Jéricho, alors que Jésus marche vers Jérusalem. Et au chapitre 21, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem. Et là, on va assister à l'exaltation de la foule, à l'acclamation de Jésus qui vient comme roi. Eh bien, ces deux hommes aveugles qui viennent d'être guéris par Jésus, qui ont bénéficié de son ministère, l'ont suivi. Et ceux à qui Jésus vient d'ouvrir les yeux, alors qu'il est en marche vers Jérusalem, vont participer à l'acclamation de Jésus. Mais ils vont aussi, bientôt, assister au don de sa vie, œuvre sans laquelle le recouvrement de leur vue n'aurait eu qu'un intérêt très très limité. Alors, on peut dire, oui, soyez guéris. Soyez guéris et allez avec Jésus jusqu'au terme de son parcours. Sinon, vous n'avez rien. Si vous avez seulement la vue physique qui vous est redonnée, si vous avez seulement la santé qui vous est redonnée, mais que vous n'allez pas avec Jésus jusqu'au bout, vous n'aurez pas la connaissance, vous ne saurez pas ce qu'il a fait en définitive pour vous. Quelques-unes, délivrées elles aussi, ont suivi Jésus discrètement, mais efficacement. Nous voyons dans Luc au chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, toujours le même processus, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ces femmes aussi ont suivi Jésus. Elles ont accompagné Jésus. Et où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, on les retrouve près de la croix. Dans chapitre 27, verset 55 de Matthieu, c'est mentionné aussi dans Marc. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Oui, notre Seigneur a amené tout ce monde, toute cette foule et ses fidèles jusqu'au spectacle de la croix. Suivre Jésus, c'est aller jusque-là. Sinon, on passe à côté. Jusqu'au spectacle de la croix. Là où le cœur de l'homme se révèle, là où tous les enjeux sont placés, là où l'homme se révèle dans sa grossièreté, sa brutalité, ses passions, son injustice. Où sont les bienveillants au spectacle de la croix? Où sont les gens bien intentionnés, bien éduqués? Oui, il y a des Joseph d'Arimathée et Nicodème près de la croix. Et ce sont eux qui vont demander le corps de Jésus pour pouvoir l'ensevelir. Et puis il y a ces quelques âmes pures, sidérées de la violence qui s'y déchaîne. Elles ont servi Jésus dans son engagement d'amour. Elles sont là. Elles sont là non seulement au pied de la croix, mais elles seront là le matin de la résurrection. Elles seront aux premières loges. Elles ont fait tout le parcours jusqu'au bout. Avec les disciples, ce parcours qui passe par la croix, mais qui débouche sur la victoire, sur la vie nouvelle, sur la délivrance parfaite, sur l'espérance éternelle, par l'œuvre accomplie du Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Alors cette génération-là, a suivi Jésus. Les disciples, la foule, les femmes, les guéris. Et chaque génération doit refaire le parcours. Chaque génération doit refaire le parcours avec Jésus. Émerveillé de son œuvre parfaite, émerveillé de ses bénédictions, de sa puissance, de sa grâce. Il fait tout à merveille. Mais conduite inexorablement au spectacle de la croix, avant la gloire de la résurrection. Ne pas faire le parcours avec Jésus, c'est rester ignorant, captif, malade, en un mot, perdu. Il y a une seule façon d'être sauvé, c'est de suivre Jésus. Suivez Jésus. Vous, de cette génération, suivez Jésus, vous, les enfants. Suivez Jésus, les jeunes. Suivez Jésus, les adultes. Suivez Jésus, les vieillards. Suivez-le. Il vous assemble sous le regard du Dieu qui vous aime, car Dieu est amour. Il vous dit la vérité selon Dieu et il vous sauve de toute la puissance ennemie, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus est venu libérer, Jésus est venu sauver. Suivons-le fermement, clairement, sans restriction. Alors, j'ai mis un nota bene. Après avoir tout quitté pour suivre Jésus, ce n'est parfois pas suffisant. Un pas de plus est demandé à Pierre. Un « toi, suis-moi » qui engage au martyr. Jean, au chapitre 21, quand Jésus a indiqué de quelle mort Pierre glorifierait le Seigneur, alors qu'à côté de lui, il y avait un autre disciple, peut-être que Jésus le garderait jusqu'à ce qu'il vienne. Mais à Pierre, Jésus a dit, que n'importe, toi, suis-moi. Et on sait qu'effectivement, Pierre est mort martyr. Comme bien d'autres, comme des millions. Et nous ne pouvons pas exclure cela, cette fin-là de notre parcours, de notre propre parcours. Seulement, que ce soit au temps et avec la force de Jésus. Parce que lorsque Pierre s'était engagé à aller jusqu'à la mort, Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il ne s'agit pas de compter sur notre propre capacité, notre propre force. Mais toutefois, si le Seigneur nous y conduit, nous pouvons aussi, à la suite de bien d'autres, passer par le martyr pour avoir suivi Jésus. Alors, avant cela, eh bien, il y a tout ce que le Seigneur nous offre par sa présence, par sa bonté, par sa justice. Alors n'hésitons pas, suivons-le comme étant ceux qu'il appelle à servir, mais suivons-le aussi tout simplement comme étant cette foule qui bénéficie, qui croit en sa grâce, en son amour, en l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus, qui croit en toute simplicité et qui reçoit ainsi le bénéfice de cette foi. Amen.